Critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, Avis Critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, pour cette dernière émission, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui, chacun à leur manière, proposent une certaine idée du voyage. Dans La femme du capitaine, publié aux éditions Anacharsis, l'historienne américaine Martha Hodges propose de suivre le long voyage effectué par Eunice Richardson. Rien ne prédisposait cette ouvrière blanche américaine du 19e siècle à faire l'objet d'un livre, mais voilà, elle a laissé une abondante correspondance qui permet de la suivre des usines de la Nouvelle-Angleterre au sud profond pendant la guerre de Sécession, puis dans la mer des Caraïbes après qu'elle eut épousé un capitaine de marine noir. C'est donc un livre de micro-histoire qui plonge dans l'histoire sociale, raciale, mais qui mène aussi une réflexion sur la perception qu'ont d'eux-mêmes les gens de la classe ouvrière à cette époque. On quitte l'histoire pour la géographie en seconde partie avec le livre de Martin de la Soudière, Arpenter le paysage, aux éditions Anna Mozart. L'ethnologue s'interroge, à partir de son expérience personnelle dans les Pyrénées et de ses lectures, comment entre-t-on en paysage ? C'est déjà un peu les vacances. Et en studio pour débattre, Catherine Portevin de Philosophie Magazine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Et Jean-Marie Durand, journaliste indépendant. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir.
Pas sûr qu'il y ait beaucoup de débats d'ailleurs ce soir. Alors je vous propose de nous intéresser d'abord au livre de Martha Hodges, La femme du capitaine, sous-titré Guerre, amour et race dans l'Amérique du 19e siècle, publié donc par Anacharsis dans une traduction de Julia Burtin. Nous avions déjà évoqué cette excellente maison d'édition indépendante dirigée depuis Toulouse par Charles-Henri Laviel et Franz Olivier à l'occasion de la publication du livre de Carl Jacobi, L'esclave qui devint millionnaire, la vie extraordinaire de William Ellis. Et si je le cite, c'est qu'on retrouve ici un projet et une méthodologie assez proches. Le projet, c'est d'écrire une autre histoire de l'Amérique qui intègre les oubliés, les noirs, les indiens, les ouvriers, les ouvrières. La méthodologie, c'est de faire une micro-histoire, de partir d'un destin individuel qui prend une dimension évidemment universelle. Martha Hodges, qui est professeure d'histoire à l'université de New York, raconte dès le début de ce livre comment elle a découvert une boîte remplie de lettres à l'université Duke de Durham en Caroline du Nord. Ces lettres, ce sont celles échangées par Eunice Richardson avec sa famille. Il y en a 500, dont une centaine de la plume de Nice. C'est donc une correspondance abondante qui est à la disposition de l'historienne, ce qui en soi offre déjà un premier élément de réflexion sur ce que pouvait représenter l'écrit pour une famille ouvrière de l'Amérique du 19e siècle. Faut-il écrire comme on parle ou bien imiter la littérature à 4 sous consommée de façon frénétique ? Quel investissement cela représente en termes financiers, en termes de temps ? Que dit-on dans ces lettres ? Et ce que montre Martha Hodges, c'est que ce monde qui change, dans lequel évolue Eunice Richardson, est pour elle objet de méditation et offre à travers ses lettres une vision des grands thèmes de l'histoire des États-Unis, classe et mobilité sociale, foi et pratique religieuse, esclavage et liberté, guerre et politique, racisme et égalité. Car Eunice, Jean-Marie Durand, a épousé un capitaine de marine noir, je le disais, qu'elle suivra dans la mer des Caraïbes. C'est d'abord donc une histoire assez extraordinaire, même si c'est l'histoire d'une jeune ouvrière blanche des États-Unis au 19e siècle.
Oui, d'ailleurs, le titre du livre, je trouve, porte en lui-même déjà le projet, La femme du capitaine, non pas La fille du capitaine, ce qui est le titre d'un roman de Pouchkine, un roman très célèbre de la littérature russe du 19e siècle. Mais le titre, je trouve, ironiquement en tout cas, secrètement, disons, indique tout de suite déjà un peu l'ambition du livre, qui est quand même, malgré tout, un livre qui est traversé par un souci de fiction, en tout cas de récit. C'est vraiment un récit, une narration, une traversée, comme ça, d'une époque. On lit ce livre à la manière d'un roman. Enfin, le sous-titre nous indique, nous indique qu'on est dans autre chose que dans un roman, puisque Guerre, amour et race dans l'Amérique du 19e siècle, on voit bien que là, on est dans un livre d'histoire, donc qui essaie d'analyser des structures, disons, sociales, invisibles, à travers le récit épique d'un personnage. Et vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'est vrai que c'est un livre qui s'inscrit dans un courant historiographique assez connu qui s'appelle en effet la micro-histoire, qui avait été théorisée, définie, portée notamment par Carlo Ginzburg, un historien italien, et qui dans les années 70 avait comme ça renouvelé la manière d'écrire l'histoire à partir de ce qu'il appelait des paradigmes de l'indice. C'est-à-dire, en gros, reconstituer le destin d'une personnalité, d'un personnage, voilà, et à travers sa vie, à travers des traces un peu secrètes, enfouies, qu'on va chercher ici ou là, qu'on va traquer, essayer de raconter raconter la vie de quelqu'un pour, à travers elle, en effet, dessiner peut-être des structures sociales beaucoup plus enfouies et moins analysées de manière en surplomb par l'histoire un peu, disons, galéenne, un peu en totalité, qui s'intéresse aux statistiques, aux grandes catégories. Là, on va chercher dans l'art du détail. Est-ce que Martha Hodes essaye de déployer dans ce livre-là, à partir de la vie de cette femme sur laquelle on va venir, c'est qu'en effet, elle est dans cette recherche-là d'une écriture, ce qu'elle appelle l'art de la supposition. C'est-à-dire qu'en fait, sa pratique d'historienne, elle le revendique elle-même hein, comme une sorte de pratique artisanale. C'est-à-dire qu'en gros, son travail à elle, c'est de se mettre à la hauteur de cette femme, à travers, en effet, vous l'avez dit, de lettres qu'elle a échangées avec toute sa famille pendant toute sa vie. C'est vrai que c'est un corpus incroyable pour un historien, 500 lettres. Parce que c'est intéressant, c'est qu'à l'époque, on s'écrivait beaucoup de lettres. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Donc là, il y a une recherche, il y a évidemment, enfin, une matière extrêmement forte. Mais là où elle est assez impressionnante, Martha Hodes, quand même, c'est qu'elle complète ces lettres-là par d'autres indices. En effet, des traces de romans de l'époque, des traces de vie et de documents comme ça qui intéressent la guerre de sécession, l'histoire du travail, l'histoire des femmes, l'histoire des Africains américains, l'histoire des Africains caribéens. Enfin, on voit bien qu'elle essaie de cumuler et d'enchevêtrer et d'imbriquer des énormes strates d'archives différentes. Et en fait, c'est ça le tour de force du livre quand même, c'est d'arriver à partir de ce travail d'enquête, parce que c'est vraiment un livre d'enquête, vraiment, je disais une fiction, mais c'est d'abord une enquête surtout, qui arrive précisément à restituer cette histoire assez extraordinaire d'une femme, en effet, sur laquelle on va peut-être revenir en plus.
On va revenir
détail,
évidemment, mais j'aimerais entendre Catherine Portevin d'abord sur ce projet, car en effet, comme le disait Jean-Marie à l'instant, il y a un véritable contraste entre l'exactitude du détail, notamment l'exploitation de ces lettres, dont chaque chapitre s'ouvre sur une lettre de Eunice Richardson à une personnalité de sa famille. Donc, une grande exactitude des faits de ces lettres et, en effet, cet art de la supposition avec des formulations beaucoup de la part de Martha Hodes, du style « elle a dû »,« il est probable que »,« elle a sans doute ». Voilà, Catherine Portevin.
Oui, d'ailleurs, de ce point de vue-là, on est vraiment dans la grande tradition de l'histoire des archives, enfin de l'archiviste, le goût de l'archive dont parlait Arlette Farge, ou le travail qu'avait fait Alain Corbin sur Pierre-François Pinagot, un sabotier qu'il avait choisi un peu au hasard dans les archives, justement parce qu'il n'avait pas laissé de traces. Alors, la différence, justement, c'est que elle a laissé Eunice Richardson, Stone, Conley, parce que patronymes sur lesquels on va revenir, elle a laissé des traces sur cette correspondance. Mais pour répondre à cette question de la supposition, effectivement, c'était quand même aussi le travail qu'avait fait Alain Corbin, justement parce que là, il n'y avait vraiment aucune trace de ce personnage qu'il essayait de saisir. Et lui ne savait pas écrire, donc du coup, il n'y avait aucune trace. Là, il y en a. Mais alors, justement, cette supposition, elle travaille en fait sur les manques de la correspondance et à plusieurs reprises, il y a même quelquefois, il y a presque une dramaturgie. Elle se demande pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a 3 ans de correspondance, on va revenir dans le détail parce que c'est presque écrit comme un roman là-dessus. 3 ans qui disparaissent, on ne sait pas. Effectivement, ça renseigne aussi sur l'histoire de cette famille qui a été traversée par la grande histoire, la guerre de sécession notamment. Et si les gens s'écrivaient beaucoup, c'est aussi parce qu'ils ont été par le destin séparés. Les moments où on a moins de correspondance sont les moments où Eunice était en fait près de sa mère, parce que c'est essentiellement à sa mère qu'elle écrit. Là, il y a cette dimension du travail d'archives. Il faut expliquer aussi que Martha Hodes, elle est tombée sur ce corpus d'archives complètement inattendu, un peu comme c'est toujours la part de hasard, la main heureuse de l'historien quand il va aux archives, comme disait Arlette Farge. En fait, elle travaillait sur les couples mixtes, noir-blanc, dans l'Amérique du 19e. Et c'est comme ça qu'elle est tombée à Duke University sur une boîte qui était tiquetée du nom de la mère de Eunice, qui était une 500 ou 700 lettres qu'elle a compulsées pour cette étude sur la mixité et sur les couples mixtes. Et elle s'est promise d'y revenir et elle y est revenue. Et là, du coup, elle s'est vraiment focalisée sur ce personnage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le matériau de base est effectivement une correspondance. Donc, outre que comment ça nous... vous l'avez fait, ça commence d'ailleurs par ce que vous avez donné en allusion, c'est-à-dire le goût du détail, de savoir sur quel papier on écrivait, si comme le papier coûtait cher, on écrivait quelquefois, on écrivait sur les on rajoutait des lignes dans les entrelignes, l'encre, le problème du papier de l'encre, plus tard aussi les problèmes de poste, de savoir comment on poste, acheminer la lettre. Enfin, toutes ces choses-là sont la matérialité de tout ça est tout à fait explorée, mais aussi quelque chose qui est très nouveau vraisemblablement et qui apparaît très fortement, c'est la question du récit de soi, la question de comment est-ce qu'on se perçoit, et toute la question de Martha Hotz au fur et à mesure de cette exploration de Eunice, à laquelle on finit vraiment par s'attacher comme personnalité, c'est de se demander jusqu'à quel point elle était consciente des tabous qu'elle a elle-même transgressés, des décisions qu'elle a prises qui étaient quand même pas du tout ordinaires à son époque. Et pour finir sur la femme du capitaine, je pense que cette expression, elle est aussi intéressante pour une autre raison, parce que c'est quand elle a été la femme du capitaine, le capitaine étant pourtant un noir, que elle, comme recherche du bonheur, parce que la question du bonheur était toujours très présente, et ça c'est un sujet neuf au 19e siècle, c'est le moment où elle a été le plus heureuse. C'est le moment où elle a été la femme de ce capitaine.
Oui, Jean-Marie Durand, un mot quand même de l'histoire de cette femme, Eunice Richardson, puisque c'est un livre sur elle. Trois époques dans sa vie, l'époque, on va dire, à la Nouvelle-Angleterre, de sa jeunesse, de son premier mariage, avec un homme qui, lui, doit partir, il ne trouve pas de travail en Nouvelle-Angleterre, il part donc en Alabama, dans le sud profond, elle va le rejoindre en pleine guerre de sécession, deuxième période de sa vie, puis elle quitte, elle repart du sud profond pour retrouver la Nouvelle-Angleterre, et là, elle rencontre donc ce capitaine de marine qu'elle va épouser finalement en deuxième noce après avoir perdu son premier mari, et qu'elle va suivre dans la mer des Caraïbes jusqu'à finir par disparaître dans un ouragan dans les mers des Caraïbes. Voilà les trois périodes. De sa vie, et qui sont explorées par Martha Hotz.
Oui, alors l'intérêt de ce récit, de cette vie qui peut paraître comme ça à la fois banale et en même temps extraordinaire, parce que tout l'originalité, en tout cas, enfin toute la spécificité de cette vie, c'est qu'elle s'est construite sur des transgression. C'est-à-dire qu'en effet, comme vous l'avez dit, elle naît en Nouvelle-Angleterre dans une famille pauvre du nord des États-Unis. Elle est ouvrière, elle épouse un menuisier, et donc elle est voilà. Et après, elle est un peu dans cette misère sociale. Et puis, en effet, elle quitte le nord pour le sud. Donc, son mari fait la guerre avec l'Union, avec les pays du sud, alors que ses frères à elle sont avec les confédérés. Enfin, donc on voit bien
qu'elle donne lieu à des lettres d'ailleurs assez poignantes. Voilà. Elle va perdre un frère d'ailleurs, voilà. Dans une bataille.
Et puis en effet, elle devient domestique, l'avant-guerre, donc elle est donc dans une famille ouvrière, disons, voilà, de cette époque-là, et en fait, tout le paradoxe, c'est que son émancipation sociale, son arrachement à sa condition, va venir à partir d'une transgression, en effet, épousée un homme noir, un mulâtre exactement, donc le fameux capitaine, et qui est à l'époque considéré comme une sorte de tabou absolu, enfin de transgression totale, à tel point qu'elle va être reniée, non seulement par sa famille, par ses frères notamment, mais par les amis, par l'environnement. On voit bien qu'aux États-Unis à l'époque, fin du 19e siècle, épouser un noir dans une Amérique blanche, c'est évidemment impossible. Enfin, c'est vraiment. Alors, je crois que évidemment il y avait des couples mixtes, on en parlait tout à l'heure avec Catherine, mais c'est beaucoup d'Irlandaises d'ailleurs souvent qui épousaient des hommes noirs. Bref, donc du coup, on voit bien, c'est ça qui est étonnant chez elle, c'est qu'elle s'arrache à ses conditions en cassant sa réputation. C'est-à-dire, elle est obligée finalement de se briser son statut social pour être enfin un peu heureuse et disons un peu plus disons riche, puisque en effet le capitaine en question est un capitaine installé, donc elle va vivre dans une île, les îles Caïmans là, qui sont devenues des paradis fiscaux là, donc c'est marrant aussi d'imaginer ça, donc dans les Caraïbes, donc une vie incroyable où là en effet elle devient, alors qu'elle était domestique, elle devient elle-même maîtresse de maison avec des servantes à sa disposition, donc on voit bien qu'il y a une sorte de d'émancipation sociale assez incroyable, mais en ayant été reniée par ses propres frères. On parlait tout à l'heure des manques dans la correspondance, que son frère Henri s'appelait son grand frère, qui ne supportait pas cet arrachement, enfin cette le fait d'épouser un noir, c'était quand même considéré comme une sorte d'acte impossible. Du coup, la renier, elle s'est sentie donc rejetée. Donc c'est quand même intéressant, c'est comme double mouvement paradoxal, quoi.
Et ce qu'on entend dans ce que dit Jean-Marie et Catherine, c'est que ce livre, c'est aussi un livre sur le trouble dans les catégories sociales et les catégories raciales. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une idée des États-Unis du 19e siècle avec des catégories sociales et raciales bien établies, bien différenciées, et on se rend compte qu'en fait, c'est très mouvant. c'est-à-dire qu'un immigré irlandais est plus proche d'un noir que d'un yankee, c'est-à-dire que d'un américain né sur le sol américain mais d'ascendance anglaise. On voit que quand Eunice devient lavandière, donc bonne, elle se rapproche aussi plus de la catégorie des noirs que de la catégorie des blancs, et donc on voit qu'il y a un vrai trouble, et elle travaille, Martha Hodes, elle travaille véritablement cette subtilité des catégories sociales et raciales de l'Amérique du 19e siècle.
S'il y a un fil qu'on peut, une grande force de ce livre, c'est vraiment celle-là, justement. C'est de comprendre comment se fabrique le racisme d'une certaine manière, avec toutes ces nuances qui peuvent mêler des critères sociaux et des critères raciaux. Les Irlandais, quand ils arrivent, parce que chassés par la grande famine dans les années 40, je crois 1840, ils arrivent assez massivement. On dit qu'ils sont paresseux, lubriques, grossiers, sauvages, et qu'ils ont la peau noire. La question de la peau brune est quand même une espèce de stéréotype qui existait à propos des Irlandais, ces pauvres Celtes qui peut-être avaient surtout beaucoup et justement, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que Eunice elle-même avait la peau assez brune, parce que elle, comme les ouvriers ou travaillaient beaucoup à l'extérieur, et donc du coup avait une peau plutôt brune, et que le critère de la blanchité était aussi le critère d'une espèce de pureté, non pas forcément idéologiquement pureté raciale, mais simplement de pureté sociale, enfin d'élévation sociale. Et c'est qu'on voit bien comment se constitue à la fois contre les Irlandais et contre les Noirs cette catégorie d'Anglo-Saxons, enfin d'origine anglo-saxonne des Yankees à ce moment-là. Quoi. Et ça, c'est très intéressant. Et ce qui est la chose la plus vraiment intéressante, c'est qu'effectivement Henry, dont Jean-Marie parlait, qui est effectivement un personnage très important dans l'histoire de Nice,
qui est donc son frère, oui.
Qui est donc son frère, lui était, au moment de la guerre de sécession, il était du côté, bien sûr, du Nord. Il était absolument contre l'esclavage d'une façon très forte. Mais ce qui est très intéressant, c'est de montrer que le même qui était contre l'esclavage n'était évidemment pas du tout pour l'émancipation des Noirs et pas du tout pour la mixité. Et en gros, elle cite une phrase qui n'est pas de Henry, mais peu importe, qui dit à la fin, dans les années après la guerre de sécession, « Il m'est plus facile de me battre pour cette race que de m'attabler avec l'un d'eux. » Et c'est exactement ça la définition aussi du racisme. Ce qui est très intéressant, c'est les raisons pour lesquelles Henry ou comme les unionistes se sont battus contre le Sud, c'était pour des raisons sociales, c'est-à-dire on est contre l'esclavage parce que l'esclavage prend le boulot que pourraient occuper les ouvriers.
C'est l'opposition entre un modèle ouvrier et le modèle de la plantation, c'est-à-dire que on s'en prend aux propriétaires terriens du Sud en oubliant d'ailleurs un petit peu au passage, c'est signalé par Martha Hodes, que les usines du Nord, elles ont aussi des propriétaires qui vivent sur la force de travail des ouvriers, notamment sur le coton exploité, filé dans le Nord, mais évidemment récolté dans le Sud, Jean-Marie Durand. Et on voit que c'est aussi une autre file de tension de ce livre, c'est la question des luttes sociales et la capacité à s'émanciper socialement, qui est un souci permanent de Martha Hodes. Vous voyez, on n'arrête pas de les confondre, Denise Richardson, dans ce livre.
Oui, c'est vrai, mais en effet, je pense que je suis d'accord avec Catherine, la ségrégation raciale est impressionnante dans cette Amérique du 19e siècle. Enfin, c'est qu'elle est ancrée dans les structures sociales de manière hallucinante. Enfin, c'est vrai que cette histoire-là nous en témoigne. Après, moi, si je peux me permettre une petite réserve sur le livre, parce que je trouve le livre, en effet, je me disais tout à l'heure, hyper impressionnant sur sa capacité, comme ça, à tenter d'identifier une femme, si je peux me permettre. Il y a quelque chose comme, et à travers cette identification d'une femme, d'un destin, en effet, analyser la société américaine du 19e. Après, ce que je trouve, c'est qu'on peut, le livre, et sa force peuvent être aussi un petit peu, de sa manière, un peu son point faible. C'est-à-dire que, on peut être aussi un tout petit peu dérangé par le fait de pas lire non plus complètement un roman absolu, dans le sens où il n'y a pas non plus, comment dire, une écriture romanesque d'un grand écrivain. C'est, même si elle écrit bien, c'est pas non plus un style absolu. Donc on est dans une approche romanesque, mais pas complètement non plus. Et à l'inverse, on n'est pas non plus complètement dans un livre d'histoire classique, dans le sens où finalement tout ce qu'on se dit nous sur le racisme, la ségrégation raciale, les classes sociales, la lutte, la guerre de sécession, toutes ces histoires finalement sont analysées extrêmement en creux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'analyse extrêmement constituée, qui on prend pas le lecteur par la main pour lui donner un peu les clés là-dessus. Et je trouve que c'est un mode de lecture qui est du coup un peu exigeant, un peu pour moi un peu sec. Et j'aimerais bien être parfois un peu plus,
Je pense exactement l'inverse. Ouais. Enfin, j'ai ressenti exactement l'inverse.
Mmh. Mais elle le dit, Martha Hodes, elle dit, c'est vraiment dans son projet qu'elle veut toujours essayer d'être fidèle à la manière dont Eunice présentait son expérience, même quand je percevais un sens historique plus profond à sa vie. Donc c'est vrai que ça ne demande pas une connaissance non plus extensive de l'histoire des États-Unis. Je veux dire, quelques repères de base sont nécessaires, mais je pense que c'est assez largement partagé. En revanche, c'est vrai qu'on ne va pas apprendre l'histoire de la guerre de sécession, l'histoire de l'émancipation.
Moi, ça me manque un peu.
Écoutez, on fera d'autres livres, évidemment, Jean-Marie, sur cette question. Un mot quand même sur le style Catherine Portevin avant de terminer.
Ben moi, c'est ça que j'aime dans ce genre de livre, franchement. Mm. C'est cette manière de tisser cette crête sur laquelle l'historien doit tenir constamment pour ne pas justement faire dire à son sujet quelque chose, enfin à son sujet, c'est-à-dire Eunice, quelque chose qu'elle ne dit pas. Et pourtant, elle dit à un moment donné que pensait-elle de l'esclavage quand elle vivait dans le Sud profond, quel sens avait pour elle le fait que son mari combatte pour le Sud pendant la guerre de sécession, comment appréhendait-elle la notion de race dans les Caraïbes. De tout ça, Eunice, dans sa correspondance, ne parle pas. Donc, il ne faut pas extrapoler. N'empêche que c'est ça quand même le travail de l'historien. Elle a quand même suffisamment d'éléments, Martha Hodes, pour pouvoir entendre dans la façon dont Eunice s'exprime, le fait que, aussi pour des raisons religieuses, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, elle a toujours eu des convictions tout de même qui n'était pas raciste.
Elle est universaliste. On n'a pas le temps de rentrer dans ce détail. Ouais.
Juste pour finir, ce qui est intéressant en plus, et c'est pas forcément là pour le seul bémol moi que je mettrais, c'est qu'il se trouve qu'ensuite elle a fait comme une sorte d'enquête vraiment vers les descendants des personnages dont elle parle.
Ça
c'est très intéressant parce que il y a des choses assez troublantes puisqu'elle retrouve même la descendante de ce fameux Henri dont on a parlé et qui a été celle qui a en fait vendu à un moment donné, qui a hérité de cette correspondance et qui les a vendus à un collectionneur qui lui-même les a déposés à l'université de Duke. Mais là, il y a une part où tout d'un coup, on rentre plutôt dans du documentaire, quelque chose presque un petit peu sentimental même, dans la réparation de l'histoire, c'est-à-dire l'historien qui vient rapporter finalement aux descendants des personnages qu'elle a exhumés elle-même des archives, leur propre histoire.
Martha Hodes, la femme du capitaine, guerre, amour et race dans l'Amérique du 19e siècle, c'est donc aux éditions Anacharsis.
France Culture, avis critique,
Raphaël Bourgois.
Je vous propose de nous intéresser maintenant au livre de Martin de la Soudière, Arpenter le paysage, poète, géographe et montagnard, publié dans une autre maison d'édition indépendante dont on vous a souvent parlé ici, les éditions Anna Moza. Martin de la Soudière est ethnologue au CNRS et à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Il intervient aussi à l'école nationale supérieure du paysage de Versailles, Marseille. Ses travaux portent sur les dimensions sensibles du monde rural qu'il aborde le plus souvent dans les zones de moyenne montagne, en Lozère, dans le Jura, le Cantal ou les Pyrénées. Il a ainsi proposé par le passé une ethnologie de l'hiver ou bien une ethnologie des lignes de train secondaires. Ce nouvel essai, qui sera donc le dernier que nous évoquerons cette saison, s'ouvre sur un souvenir, les vacances de Martin de la Soudière dans les Pyrénées lorsqu'il était enfant, un moment et un lieu qu'il explore ou réexplore pour répondre à une question: comment entre-t-on en paysage? La question peut surprendre si on considère le paysage comme quelque chose de donné, d'éternel, de fixe. C'est tout le contraire pour l'ethnologue qui part du principe que personne n'a jamais marché sur le paysage. C'est donc un élément avant tout tiré d'une construction. Le mot est lâché. Il faut préciser la question concrètement, physiquement. Comment entre-t-on en paysage? À quelle allure et à quelle fréquence? Avec quels moyens de locomotion? Et avec quels effets immédiats sur le corps, sur les sens, sur la vue? Partant de son expérience propre et d'une galerie de portraits d'écrivains, de l'alpiniste au poète, il nous plonge dans une réflexion sur la relation intime que chacun entretient avec le paysage, avec son paysage. C'est un livre déroutant, on peut s'y perdre comme l'auteur lors de ses balades. Il faut en quelque sorte le mériter comme il faut mériter la montagne, Catherine Portevin.
Je trouve un peu sévère. Je trouve qu'il y a un charme de ce livre qui est un charme un peu suranné. Il faut bien dire, ça sent un peu les années 50, mais je crois que c'est une tonalité qu'il assume complètement. Il assume sa part de ce léger vague à l'âme dont il parle pour parler sa propre façon de parler des choses, sa préférence pour les lieux un peu qu'on dit désolés, en vieillot. Que sont les plateaux de l'Aubrac dont il parle très très bien. Alors moi, pour avoir des attaches dans cette région de la Margeride entre Cantal et Lozère, j'ai entendu parler de Martin de la Soulière depuis très très longtemps. Et c'est vraiment l'ethnologue qui s'est intéressé à cette partie de la France, de la ruralité, et notamment à la fois le travail sur l'histoire et l'imaginaire de la bête du Gévaudan, parce que si on est à peu près dans cette région-là. Donc, pour moi, c'est assez familier de rentrer dans la prose de Martin de la Soudière. Alors, il cherche pas. Ce que je trouve intéressant derrière, c'est réhabiliter un peu cette ethnologie rurale de la France, qui est une partie de l'ethnologie qui est vraiment beaucoup sous le boisseau depuis les années 80. Enfin, et elle a eu ses grandes heures de gloire dans les années 50, 70, avec même Lucien Febvre travaillait beaucoup là-dessus.
L'historien Lucien Febvre.
Ou Georges-Henri Rivière, qui est moins connu, mais qui a fait un travail remarquable sur cette même théorique. Et là, on voit bien qu'il y a un petit côté de pardon, qui voit la France avec quelque chose d'un peu, et puis très inspiré aussi d'un sociologue qui a eu son heure de gloire à un moment donné, qui s'appelait Pierre Sansot.
Il
en parle beaucoup dans le livre, mais bon, voilà, tout en disant que alors Pierre Sansot, je pense qu'il faudrait le relire aujourd'hui. Franchement, c'est aussi sur le plan purement scientifique, quelqu'un qui disait un peu n'importe quoi, enfin, qui inventait beaucoup de choses avec un charme aussi beaucoup.
Je pense que c'est ça d'être un peu la lisière de la poésie, mais, le sens social, c'est le récit de voyage.
Mais je crois que le travail concret de Martin de la Soudière, pour avoir lu ses autres livres, est beaucoup plus sérieux sur le plan ethnologique. Voilà. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne cherche pas à proposer non plus une théorie très ficelée du paysage. Les écrits sur la nature, sur le paysage, ou sur les écrivains voyageurs, soit sont ultra, quand ils sont portés par des spécialistes de l'espace, les architectes, les urbanistes, les géographes. Aujourd'hui, ils sont hyper conceptuels. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été un mystère pour savoir pourquoi les gens qui sont des spécialistes de l'espace, sont qui pourtant très concrets, qui parlent de ponts, de montagnes, de villes, de gens, de rues, de routes, etc., sont tellement conceptuels. Et de l'autre côté, on a un peu la mode des écrivains voyageurs qui ont quelque chose peut-être d'un peu égocentrique, qui est pas forcément la chose la plus intéressante, même s'il y a des grands auteurs là-dedans. Lui, il cherche les gens qui n'ont pas voyage pour écrire, mais qui écrivent pour voyager. Ouais, et ses goûts littéraires sont là-dessus.
Il dit qu'il c'est un livre qui est beaucoup plus tourné vers les tenants de la procession que ceux du pèlerinage. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, le paysage aujourd'hui, je sais pas pourquoi, on pourra l'expliquer sûrement en y réfléchissant, est un sujet qui obsède beaucoup d'auteurs.
Enfin, oui, j'allais le dire, oui, Jean-Christophe Bailly,
Bailly, ça c'est un des plus beaux livres sur le sujet, le dépaysement, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, je pense que ce livre-là, il faut le relire, c'est un livre incroyable. Mais disons que, il y a, depuis quelques années, vous voyez bien une tendance, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de penseurs même obsédés par la marche. Vous le savez bien, Frédéric Gros, Antoine de Bec, Sylvain Tesson, Nicolas Bouvier, un leur maître. On voit bien que la marche aujourd'hui est un sujet très très contemporain. Mais justement, ce que Martin Assoudière précise d'emblée dans son livre, c'est que lui, justement, il s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse pas justement à ces auteurs qui voilà vont en effet voyager pour écrire, mais il s'intéresse plutôt aux gens qui voyagent et qui du coup sont portés par une nécessité d'écriture. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'est vraiment le livre Arpenter le paysage doit être compris au un double sens. C'est en effet arpenter des paysages, les voir, les observer, les regarder, les décrire et expliquer la connivence qu'on peut créer avec eux. Mais c'est aussi arpenter ses propres lectures sur ce sujet-là. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le livre, qui est un livre polyphonique. Il dit même un livre polygraphique, il s'intéresse à des alpinistes, à des géographes, à des poètes, à des penseurs. Il y a vraiment une sorte de cartographie très très éclatée de deux heures qui l'ont lui-même complètement nourri et je veux dire impressionné dans leur capacité à raconter ça. Donc de Fernando Pessoa arpentant les rues de Lisbonne, à Philippe Jacotet qui était un poète comme ça qui traînait dans la Drôme provençale, à Julien Gracq bien sûr. Bon ça c'est un peu évident, mais sur les rivages de la Loire. Donc on voit bien qu'il a une sorte à Franz Schrader, qui est un alpiniste que je connaissais pas, qui est apparemment essentiel. Voilà, donc il y a même un pic Schrader, vous savez, dans la haute vallée de Luchon. Donc on voit bien, et Élisée de Reclus, le géographe Élisée de Reclus. Bon, bref, il a une sorte de cartographie très très éclatée. Et moi je trouve que ça dessine un truc intéressant. C'est justement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un paysage? C'est pas seulement observer un paysage, parce que c'est vrai que c'est le regard qui crée le paysage. Mais comme disait François Julien dans un très beau livre qui s'appelait Vivre de paysage, qui était paru il y a quelques années, Vivre de paysage, le paysage est aussi une ressource. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans le paysage, c'est que ce qu'il appelle une mise en miroir de l'intime. C'est-à-dire qu'en gros, le paysage, c'est un rapport visuel, mais ce n'est pas qu'un rapport visuel, c'est aussi, on déplace finalement le monopole de la vue vers ce qu'il appelle le vivre. On vit d'un paysage. Et d'une certaine manière, je trouve que le livre de Martin Assoudière traduit ça à sa manière.
Oui, complètement, parce qu'il y a un passage où il explique bien que regarder un paysage, c'est toujours se souvenir, c'est-à-dire le rapporter à d'autres paysages connus. Même quand on découvre un paysage complètement nouveau, on a tendance à le rapporter à d'autres paysages qu'on peut connaître. Et puisque vous parliez de vivre, je me tourne vers Catherine Portevin de Philosophie Magazine. Martin Assoudière le dit au début, c'est un peu une phénoménologie du paysage qu'il nous propose. Dites-nous en quoi, expliquez-nous un petit peu ça. Pourquoi
ça, c'est la question piège.
C'est la question piège, vous avez 4 heures.
Ben, un petit peu comme ce que vient de dire Jean-Marie, c'est-à-dire que le vivre, là, c'est la question du vivre, la question non pas simplement de cette description de quelque chose qui serait construit, qui serait soit une pure construction de perception, soit un grand dehors. Une réalité qui serait complètement en dehors de nous. Ce que je trouve vraiment intéressant, et ça c'est là où il est phénoménologue, c'est-à-dire qu'il examine par les usages qu'on peut en avoir, là aussi une question de la constitution même de la subjectivité. Nous ne sommes pas que des pures intériorités, nous sommes constitués de ces dehors qui nous ont constitués. Voilà, et ces dehors, c'est les environnements ou les paysages qui peuvent référer à la mémoire enfantine ou pas d'ailleurs. Et les exemples qu'il donne, la question de l'enfance est très présente puisqu'il raconte tous ses souvenirs de familles nombreuses dans les Pyrénées, qui sont assez intéressantes d'ailleurs parce que c'est là qu'il apprend à se perdre, parce que on imagine plus aujourd'hui, mais tout même se promener en forêt ou en montagne. Aujourd'hui, on connaît les sentiers balisés. Les randonnées familiales qu'il raconte étaient vraiment au doigt mouillé, avec une carte, une boussole, enfin quelque chose.
Mais il faut sentir
il a des très belles pages sur la version sur l'expérience de se perdre. Et donc ça c'est vraiment là pour le coup très doucement comme ça à sa manière, parce que c'est pas quelqu'un qui roule les mécaniques et qui dit je vais vous faire une théorie, mais en fait il y a une vraie théorie du paysage qui est celle-là, qui est celle de cette connivence en fait, ce qu'il appelle la connivence entre soi et entre soi et le monde.
Oui, c'est un mot très important, la connivence.
Et puis pour poursuivre sur l'idée comme ça de l'intime, et en effet le perceptif, c'est aussi de l'affectif, hein, dans le paysage, il y a vraiment ça qui se joue. Et c'est vrai que le rapport à l'enfance est essentiel, il le dit lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, un paysage, une culture paysagère naît en chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on est aussi nourri par des souvenirs d'enfance. Lui, en effet, par ses souvenirs de vacances dans les Pyrénées, ça l'a constitué une culture paysage de la montagne. Et comme disait Fernando Pessoa, voir, c'est avoir vu. Et c'est une des idées, je pense, fortes du livre, c'est que on est toujours comme ça, nourri par nos propres petites madeleines, quoi. D'une certaine manière, lui, c'est les Pyrénées, c'est les paysages de montagne. Peut-être qu'un vieux producteur de France Culture, sa culture paysagère, c'est le pont de Grenelle qui prend depuis 30 ans, tous les jours en face de la maison radio, peut-être que ça constitue un paysage. C'est aussi, je veux dire, voilà, lui, il est plutôt obsédé par la montagne, mais après tout, Pessoa, lui, la montagne, c'est pas son sujet, vous voyez, donc chacun a ça, son propre souvenir d'enfance et son intimité. Et ça, je trouve que c'est assez beau, parce qu'on est tous, en effet, disons, construits par ça. Après, ce qui peut paraître un peu désuet, Catherine disait tout à l'heure, un peu, disons, peut-être un peu old school, entre guillemets, c'est que il y a toujours un peu cette idée que pour un paysage, il faut toujours prendre son temps. Il y a l'idée vraiment de la lenteur que Pierre Sansot a théorisé beaucoup, hein, l'usage de la lenteur, finalement, arpenter, flâner, comme si un paysage ne pouvait se découvrir, se vivre, de la manière, que dans cette rapport-là au temps. Ce qui est, bon, je trouve évidemment une belle idée. Je pense nous-mêmes, quand on prend son temps, on voit bien qu'il se passe des choses. Mais, il faut penser aussi le paysage un peu différemment, il me semble, aujourd'hui. Après tout, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, on prend le RER, on prend le métro, on voit des trucs, plein de trucs tout le temps, hyper vite, on est speedé. Tous, on a cette accélération. Est-ce que ça veut dire que le paysage, pour autant, n'est pas...
Disparu.
C'est une question qui est pas tellement posée, et pour moi, c'est un angle mort qui est un peu problématique.
Oui, Catherine Porto, non, mais vous allez pouvoir répondre à Jean-Marie, mais c'est vrai que pour illustrer ce qu'il vient de dire, il y a quand même, pour accrocher ça un petit peu à quelque chose de concret, il y a une réflexion sur comment on est passé d'une société de la flânerie à une société du sport, c'est-à-dire maintenant il faut marcher rentable et utile.
Oui, c'est-à-dire que comme il dit, je ne sais plus en citant quel auteur, il dit le chasseur sait bien qu'il ne va pas à la chasse, il va à la chasse au canard ou il va à la chasse au lapin. Il va et donc de la même manière,
c'est un but. Ouais.
On a fait de la marche une activité intransitive. On marche pour marcher, je marche pour marcher, alors que c'est toujours on peut aller aussi marcher pour aller quelque part. Et ce qui est très intéressant, il a des notations très fines sur les modes de transport. Bon, il a effectivement, vous l'avez signalé, il a fait un livre assez charmant aussi sur les lignes secondaires et sur l'usage des paysages par les modes de transport. Et quand Jean-Marie dit aujourd'hui on a aussi les TGV, les avions qui produisent aussi du paysage. C'est vrai, mais est-ce qu'on les vit encore comme des traversées, comme des formes d'une occasion de voir le paysage. Et il rappelle que dans les années 50 ou même déjà dès les années 30, la promotion de l'automobile, le Touring Club, je ne sais pas ce que l'Automobile Club de France, et même la SNCF, s'est présenté comme un lieu, comme la promotion du paysage, c'est-à-dire de la traversée du paysage. C'était dans le plaisir des vacances, c'était de se mettre dans une de chevaux et de traverser la France, enfin d'aller voir la traversée.
D'ailleurs, le livre commence comme ça, puisqu'il raconte comment ils arrivaient avec apparemment, ils étaient beaucoup d'enfants dans la voiture, et comment on regarde le paysage pour atteindre ce col où enfin, pour la première fois, on va voir la chaîne des Pyrénées, on l'a pas dit, mais Martin de la Soudière n'est pas pyrénéen, il vient de la région parisienne.
Oui,
les Pyrénées, les montagnes Pyrénées, il explique, elles ont été inaugurales, à la fois dans sa vie et même dans sa vocation professionnelle, puisqu'il est devenu ethnologue suite à ça, et sa vocation est née là et il explique que ces montagnes ont instillé en lui un germe. Et encore une fois, je trouve que c'est une belle idée, cette idée comme ça d'un paysage constituant, quoi. Il y a quelque chose de très fort et je trouve.
Oui, il va jusqu'à mobiliser la notion de Heimat en allemand. Heimat, ouais. Oui, pardon, ouais. Je parle très mal l'allemand. De Heimat en allemand, qui est assez intraduisible, hein, c'est à la fois la nation, le foyer.
Ouais, tout à fait. Mais ce que j'aime beaucoup dans le livre, moi, quand même, je trouve que c'est assez beau. Moi, j'aime bien justement cette idée comme ça d'arpenter des lectures très différentes. Je trouve que c'est assez beau cette manière de mêler à la fois des livres d'alpinistes, des récits d'alpinistes, qui d'ailleurs, les alpinistes, j'ai appris ça, écrivent beaucoup. Il y a quand même une sorte de nécessité d'écrire pour.
Vous avez
pour
jamais fait d'alpinisme? C'est parce qu'on s'ennuie beaucoup quand on
jamais,
fait d'alpinisme. Il y a beaucoup de moments où on n'a rien à faire.
Et moi, j'ai appris avec le paysage, c'est que moi, j'ai pas tellement d'affect avec les paysages naturels. J'ai pas eu beaucoup l'occasion, à part un petit peu les falaises en Normandie, mais c'est moi, je suis un vrai parisien, donc du coup, moi, c'est les rues de Paris qui m'inspirent plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup mais alors voilà, une promenade en forêt, une promenade. Moi, je trouve qu'il cartographie, je trouve, des auteurs qui ont comme ça un rapport au paysage que je trouve assez stimulant et assez beau. Et bon, évidemment, Julien Gracq, c'est un peu le top, voilà, dans le mode d'écriture, mais finalement, Jean-Louis Trassard ou d'autres gens que je connaissais moins, sont aussi André Dautel, voilà, ça, je connaissais pas dans la forêt des Ardennes, c'est assez beau aussi. Donc, c'est aussi un beau livre de témoignages, d'admiration pour des auteurs. Et voilà.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la part littéraire de ce livre.
Elle est très importante. Elle est très importante. Et ses choix littéraires sont très forts. Il en parle avec beaucoup de connaissances. Ça, je trouve que c'est la partie la plus intéressante. Et puis, il y a un élément aussi du paysage qu'il met en valeur, c'est la question de la saison. Et il parle aussi de sa météo-sensibilité. Alors, les pages comment il associe des lieux et des saisons avec son choix de sentir l'acmé de l'été début août en Dordogne, mais sentir l'automne en Bourgogne ou de sentir la neige au Mont Mouchet dans le Cantal en sentant l'arrivée de l'hiver. Ça, je trouve que c'est très c'est très concret et à la fois je pense que ça peut se transmettre même si on a une sensibilité urbaine.
Regardez,
parce qu'il faut quand même aller voir, il faut quand même avoir vu une fois dans sa vie les champs de Narcisse des plateaux de l'Aubrac au printemps, c'est quand même une merveille.
C'est intéressant, sur son site internet description de son poste au CNRS, il met ses recherches en cours, donc il travaille en ce moment, par exemple, sur une enquête de terrain, un tournage d'un film ethnographique sur les agriculteurs en Lozère, et il y a un autre champ de recherche qu'il appelle dépression saisonnière. Et je trouve que c'est assez beau comme expression. On se demande ce que signifie cette dépression saisonnière. Est-ce qu'elle désigne les saisons elles-mêmes, ou est-ce qu'elle désigne le statut du chercheur lui-même, voilà, qui est lui-même soumis. Il y a un côté poète chez lui quand même, que le livre traduit, hein, vraiment. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment assez beau, quoi. C'est un livre assez sensible, c'est vrai que qu'il y ait une manière un petit peu différente de réfléchir à la question des paysages aujourd'hui, de manière moins, disons, classique, quoi.
Oui, avec aussi une réflexion sur sa propre pratique. Il y a un chapitre, un géographe de plein vent, où il réfléchit sur la pratique de géographe, le terrain, la pratique d'ethnologue, la question du terrain qui évidemment est au centre de sa pratique. Catherine Porterin,
oui, il a quelque chose d'un collecteur, chasseur-cueilleur qu'il a gardé, quoi. Il dit qu'il se promène toujours avec un cahier d'hiver, par exemple, quand il travaillait sur l'hiver. Alors il a un cahier avec lui, il prend toutes les notations qu'il peut. Un cahier de lieu, un cahier de rail quand il travaillait sur les trains. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça du paysagiste, enfin, ou de l'ethnologue chasseur-cueilleur chez lui, qui est que je trouve très belle et qui est assez productive en réalité de compréhension du monde.
Et bien, pour découvrir la récolte de Martin de la Soudière, il faut lire Arpenter le paysage, poète, géographe et montagnard. C'est donc aux éditions Anna Mossa.
L'instant critique.
Dernier instant critique de la saison. Est-ce que Jean-Marie Durand, Catherine Portevin, vous êtes venu avec des conseils pour nos auditeurs pour partir en vacances? Je sais pas, je vous ai pas donné de lieu de vacances, mais pour emmener avec soi en vacances. Je vous ai pas donné d'instructions, mais je me dis que peut-être ça peut toujours faire l'affaire.
Moi, je voulais proposer pour poursuivre la discussion l'invitation à aller à Versailles, à la Biennale.
Donc bien un lieu pour partir en vacances.
Tout à fait. Bon, je sais pas si c'est un lieu génial pour les vacances, mais en tout cas, le lieu que je vais vous indiquer est magnifique. C'est le Potager du Roi, près du château de Versailles, pour en effet assister à la Biennale d'architecture et du paysage, et pour poursuivre la discussion sur le paysage. En ce moment, il y a Alexandre Chimetov, qui est lui-même architecte, paysagiste, urbaniste, qui réfléchit beaucoup à ces questions-là depuis longtemps, propose une exposition qui s'appelle Le goût du paysage, précisément, dans le cadre d'une biennale, où également Jamel Clouche, lui-même, fait une autre exposition sur nouvelles pratiques architecturales. Alors, ce qui est intéressant avec la proposition d'Alexandre Chemetov, c'est réfléchir à la question du paysage, mais en insistant sur une idée que je trouvais très belle, c'est que les beaux paysages sont aussi des bons paysages. Donc, il s'intéresse à la question, finalement, de l'agriculture, du goût, et notamment en Île-de-France, avec, il a mis en scène dans une exposition avec plein de témoignages de paysans producteurs qui essaient de travailler des légumes et des fruits un peu oubliés dans la région. Et en fait, il y a dans chaque parcelle, on voit bien comment l'évolution du paysage a évolué depuis 45. Donc, c'est une réflexion à la fois, j'allais dire, très technique, très urbanistique sur comment l'agriculture s'est transformée en Île-de-France et comment des nouveaux paysans producteurs aujourd'hui tentent de réhabiliter un peu des techniques ancestrales. Et c'est assez beau. Il y a aussi un programme de films de cinéma, le film sur la question du paysage très, 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 très belle. Et les deux questions clés que pose Chemetov dans cette exposition, c'est que mange-t-on ce soir? Quel temps fera-t-il demain? Comme si ces deux questions-là qui obsédaient les gens aujourd'hui au quotidien et avaient aussi un impact sur la manière de réfléchir justement à la question d'aménagement du territoire et des paysages. Donc c'est un prolongement finalement de cette réflexion qu'on a eu aujourd'hui sur la manière d'arpenter le paysage.
Et un prolongement aussi de cette exposition de photos qu'il y avait eu à la BNF, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, ouais. Sur la question du paysage.
Absolument.
Avec une toute autre façon finalement, on voit qu'il y a une grande évolution dans la façon d'aborder même artistiquement, j'allais dire, le paysage, parce que c'était une exposition de photos qui montrait notamment avec Depardon comment on a une certaine façon de documenter le paysage, alors qu'aujourd'hui, on le voit, c'est beaucoup plus théorique, une réflexion presque plus poétique.
Absolument.
Jean-Marie
Durand. Absolument, non, c'est vrai que c'est intéressant, encore une fois, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un sujet très très important aujourd'hui, et en effet, les expositions sont aussi un espace qui, justement, précisément, accueille et abrite un peu ces questions-là aujourd'hui.
Catherine Portevin.
Alors, moi, je suis désolée, j'ai pas du tout pensé aux vacances. Peut-être que je suis encore la tête dans le guidon. Mais j'ai pensé à l'hommage à faire un hommage à la radio et à France Culture.
C'est une excellente idée.
Voilà. Parce que quand même, on a bien travaillé. En parlant de ce petit livre aux éditions Le HESS, une collection qui s'appelle, qui est très 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 bien, qui s'appelle Audiographie, et où il s'agit de retranscrire par écrit, enfin de faire le travail d'édition de tout ce qui est, de tout ce que les directeurs de collection appellent les prises de parole, quelquefois non connues de grands intellectuels. Il y a eu des textes de Foucault, de Vernon, de Germaine Tillon, récemment de Jacques Crevel. Enfin, voilà. Et là, il s'agit de Louis Marin, dont je vais dire un mot, qui s'appelle La traversée des signes. Et ce sont des transcriptions d'un avoine nu, passé sur France Culture, et mené par Francesca Piolo, qui est une productrice que j'ai bien connue et que je trouve extraordinaire, et qui est capable d'avoir des questions du genre est-ce que les anges peuvent communiquer entre eux? Est-ce que deux purs esprits peuvent communiquer? Et parce qu'ils sont en train de discuter de l'annonciation.
Vous me donnez des idées de questions pour vous pour l'année prochaine, voilà. Catherine Portevin.
Ah oui, ils sont en train de discuter de d'une annonciation et du travail de la question de la communication, parce que Louis Marin était un sémioticien, il a travaillé sur la question de représentation et il a une œuvre très très importante qui est très méconnue en histoire de l'art, histoire des discours religieux et histoire de la représentation. Et initialement, c'était un philosophe qui, même spécialiste de Pascal, il raconte des choses assez amusantes sur la manière dont il s'est retrouvé dans un colloque sur Pascal au Japon en 1985, mis à la question par des philosophes japonais sur Pascal, ce qui était quand même très intéressant. Et il a aussi beaucoup travaillé sur la question de la représentation du pouvoir, et la représentation du pouvoir notamment en travaillant sur les portraits du roi. Mmh. Il y a un grand livre de lui qui s'appelle Le portrait du roi, où il analyse la manière dont Louis XIV s'est fait représenter avec cette fameuse jambe qui sort du manteau, et il y a tout un développement très intéressant, et donc aussi sur les anges. Est-ce qu'un ange peut avoir un secret pour un autre ange? Voilà la question.
C'est une question qu'on vous laisse méditer pendant les vacances, si vous en prenez bientôt, enfin en tout cas vous en prendrez certainement, j'en suis sûr. Catherine Portevin, Jean-Marie Durand, merci à tous les deux, je vous dis à l'année prochaine, car Avis Critique c'est terminé pour cette saison. Merci infiniment à Catherine Donnet et à Vanessa Nadjar. Catherine Donnet qui est mon attachée d'émission et ma réalisatrice, Vanessa Nadjar, de m'avoir accompagné encore cette année. Peut-être on se retrouve l'année prochaine. À la prise de son, c'était Renaud Luzin. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission, la télécharger, vous abonner au podcast sur franceculture.fr. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver tout le mois de juillet. Ce sera le samedi et le dimanche à 12h40 pour le magazine du week-end. Et donc, à la rentrée pour une nouvelle saison d'Avis Critique. Dans quelques instants, Jukebox. Thank you.